Donc maintenant, on va voir trois cours sur Thomas d'Aquin, sur Luther et sur le philosophe Kant. Et puis ensuite, on aura Blondel et puis de nouveau une leçon sur l'écriture sainte, une leçon sur anges et démons, et enfin le péché originel et l'évolutionnisme et la vision de Théard, etc. Voilà, ce sera la conclusion. Alors aujourd'hui, j'annonce Latran IV, ça veut dire le concile de Latran, le quatrième de 1215, qui a dit des choses importantes pour le péché originel ou pour le mal, mais en général pour l'Église. C'est un concile extrêmement important dans l'histoire de l'Église. 1215. Et c'est pourquoi j'ai commencé par vous faire un petit parcours, historique avec le contexte de saint Thomas d'Aquin. Et puis saint Thomas d'Aquin, qui est le doctor communis, le docteur commun, donc celui, le théologien, qui est considéré comme ayant la doctrine la plus commune, la plus acceptée, la plus étendue, la plus fiable jusqu'à nos jours, et qui a donc écrit une somme théologique. Alors cette somme théologique s'étend sur des centaines et des milliers de pages, et vous en avez ici au verso le plan complet. Le plan complet, où je saute évidemment ce qui ne nous intéresse pas directement, hein. Mais donc vous voyez que dans la prima pars, la première partie, il y a bien 119 questions. Dans la prima seconde, il y a 114 questions. Il y a un petit problème là. Je crois qu'il faut un peu baisser sans doute. La seconda seconde, la deuxième partie de la deuxième partie, il y a 189 questions. Vous voyez là que ça a été très vite, hein, le résumé. Et puis dans la dernière partie, 99 questions. Donc ça, c'est le plan complet de la somme théologique, et ce sera sur ce que la somme dit à propos du mal et du péché que je vais esquisser la pensée de saint Thomas. Alors d'abord, qui est qualifié ici de conception sereine. Conception sereine du mal et du péché. Alors, après la conception augustinienne, vous vous souvenez, hein, qui est très dramatique, très historique, et puis l'idée de la massa damnata dont je vous ai parlé, hein, tous les hommes méritent le châtiment, l'enfer, etc. Tous nous sommes pécheurs, c'est saint Augustin, hein. Avec saint Thomas, on va avoir au contraire une vision beaucoup plus sereine. Je vais essayer de vous expliquer laquelle. Fondamentalement, Thomas est un tempérament certainement plus optimiste que saint Augustin, mais il se situe aussi à une période de l'histoire, c'est ce que je voudrais vous montrer, à une période de l'histoire où l'Église catholique romaine se sent tout à fait à l'aise en Occident, est tout à fait maîtresse du terrain, est tout à fait sûre d'elle-même, et voici quelques éléments qui le montrent. Donc, en 1054, il y a eu le grand schisme d'Orient. Ça veut dire que les chrétiens d'Orient, qui étaient plutôt, disons, rassemblés autour du patriarche de Constantinople, et les chrétiens d'Occident, sous le patriarche de Rome, ben, ont eu des problèmes, des disputes, je ne peux pas entrer dans la question, mais ils se sont excommuniés mutuellement, et donc à partir de là, nous avons l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Ce sont donc deux églises chrétiennes, bien sûr, mais qui l'une se dit catholique romaine et l'autre se dit orthodoxe. Si d'autres ont aussi un GSM à éteindre, qu'ils en profitent. Merci. Alors moi, je pense que cette scission avec l'Orient a entraîné de grandes conséquences pour l'Église d'Occident. Au sens où il n'y a plus ces deux poumons, comme on dit, comme le pape Jean-Paul II l'a souvent répété, il n'y a plus ces deux poumons, ces deux sensibilités différentes, ces deux traditions, etc., et que donc l'Occident est parti sur une ligne qui est un peu sa pente, hein, sa pente à elle, qui a beaucoup de qualités bien sûr, mais qui a aussi quelques limites, Et c'est une pente très organisatrice, une pente très juridique, une pente très rationaliste. Hein. Et donc, où tous les théologiens, etc., eh bien, se mettent à réfléchir de manière très philosophique. Alors qu'en Orient, on reste davantage dans une vision plus mystagogique, plus voilà, de la spiritualité, de la sainteté, etc., alors que l'Occident est davantage rationnel, juridique, hein, et s'organise administrativement, ça devient très solide, etc. Avec notamment le pape Grégoire VII, qui est le 155e pape, et qui est le premier à lancer cette réforme grégorienne, comme on dit. Elle avait commencé un peu avant lui, hein, et c'est donc la réorganisation de l'Église en profondeur, avec l'élimination de tout ce qui ne marchait pas, hein, de toutes les abus à gauche, à droite, etc. Donc, une espèce de remise à neuf de toutes les institutions, et notamment cette fameuse querelle des investitures, le sacerdotium contre l'imperium, ça veut dire, ben, au fond, le bras de fer, hein, entre le pape et les souverains temporels qui, à ce moment-là, commencent à prendre du pouvoir, s'organiser en Angleterre, en Hongrie, etc. Donc il y a des États plus ou moins modernes qui commencent à naître, hein, en France, en Angleterre et tout. Et donc le pape, comme souverain en partie temporel, puisqu'il y a les États pontificaux, eh bien, met les choses au point. Hein. Il dit qu'il n'y a pas de mélange de pouvoir, et même que le pouvoir spirituel est supérieur au pouvoir temporel, etc. Donc il y a là une mise en ordre très précise, un dérapport entre, au fond, l'Église et l'État. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, nous continuons à vivre de ces grandes décisions qui ont été prises au XIe siècle. Elles ont évolué, bien sûr, il y a eu différentes péripéties, jusqu'au Concile Vatican II, qui par exemple vient à supprimer les fameuses excommunications mutuelles de 1054. Ça a été une grande victoire écuménique. Hein. Donc, tout à la fin du Concile, le patriarche de Constantinople et le pape ont dit que les excommunications mutuelles de 1054 ne valaient plus pour aujourd'hui. Et voilà qu'il y avait donc une réconciliation à ce niveau-là. En 1139, nous avons le deuxième concile de Latran, qui lui met les choses en place de manière très précise au niveau de la prêtrise, au niveau du sacrement de l'ordre, avec la loi du célibat, qui bien sûr était promu depuis longtemps, était souhaité, etc., mais n'avait jamais été, disons, imposé de manière absolue. Et il y a donc ce fameux septième canon du Concile de Latran II qui décrète désormais l'empêchement d'ordre. Ça veut dire que si on est ordonné, prêtre, mais aussi diacre ou sous-diacre, on ne peut plus se marier, le mariage subséquent est invalide. Et à l'inverse, il y a obligation du célibat ecclésiastique, hein, pour ceux qui veulent devenir prêtres. Donc, je dirais que le clergé latin, romain, de plus en plus à partir de cette date-là, de 1139, eh bien, commence à observer de manière très stricte, hein, et tout à fait universelle, le célibat ecclésiastique. Vous savez que l'Église d'Orient ne tient pas cette même loi, hein, comme d'ailleurs l'Église d'Occident ne la tenait pas de manière aussi précise que depuis cette date de 1139. Au niveau théologique, en 1140, on trouve pour la première fois dans des textes théologiques la notion de transsubstantiation. Ça, c'est donc un terme technique pour expliquer, pour approcher ce qu'est le mystère, hein, de l'Eucharistie. Le pain et le vin qui sont offerts à l'Eucharistie deviennent vraiment le corps et le sang du Christ. Et il y a une explication qui relève un peu de la philosophie, justement. Je vous ai dit que c'était la pente de l'Occident, d'essayer d'expliquer les choses avec des concepts, eh bien voilà, le concept de transsubstantiation apparaît pour la première fois à ce moment-ci. En 1145, il y a une autre apparition très importante dans le vocabulaire théologique, c'est le septénaire sacramentel. Ça veut dire « il y a sept sacrements ». Alors vous allez me dire, ben, c'est sûr qu'il y a sept sacrements, on sait ça depuis toujours. Eh bien, on sait ça depuis toujours, mais ça a été vraiment défini et affermi, je dirais, à partir du XIIe siècle. Autrefois, il y a des grands théologiens, des grands saints qui ont tenu qu'il y avait deux sacrements principalement, hein, le baptême et l'Eucharistie, d'autres qui en avaient cinq, d'autres qui en avaient douze, parce qu'il y avait aussi l'onction royale, par exemple, parce qu'il y avait éventuellement le lavement des pieds. Enfin, il y avait toute une, je dirais, une gamme d'opinions théologiques sur la question de la sacramentalité, des sacrements. Mais l'esprit, je dirais, occidental a dit non, non, ça ne va pas. Hein. S'il y en a cinq, il n'y en a pas sept. S'il y en a sept, il n'y en a pas douze. Il faut savoir combien il y en a. Donc, on va faire le concept générique des sacrements et puis les concepts particuliers des sept sacrements. Mais le sacrement de l'ordre a quand même 3 degrés, mais il en avait 7. Mais enfin, donc, c'est un peu compliqué. Hein. Mais vous voyez que le septénaire comme tel apparaît à partir de ce moment-là. En Occident, les choses sont beaucoup plus souples encore aujourd'hui, hein, sur ces questions-là. Donc voilà, c'est fort important parce que quand on discute, par exemple, aujourd'hui, de savoir si le diaconat, par exemple, est un sacrement, ben, de quelle époque parle-t-on, hein? Il y a une époque où on en doutait, il y a une époque où on en était certain, de quel diaconat s'agissait-il, de celui qui conduisait au sacerdoce, de celui qui était permanent. Donc voilà, tout ça c'est assez important. C'est à partir de cette date-là qu'il y a vraiment donc une fixation, hein, du cadre conceptuel concernant, par exemple, les sacrements. Pierre Lombard, théologien qui a travaillé pendant 60 ans, là au début du XIIe siècle, qui a été évêque de Paris tout à la fin de sa vie, a écrit la Somme des Sentences. C'est un grand ouvrage théologique qui a servi de manuel dans toutes les facultés de théologie, hein, à partir de lui. Et donc les sentences de Pierre Lombard devenaient un manuel que tous les professeurs de théologie devaient étudier et devaient même commenter, hein, devant leurs élèves, leurs étudiants. Donc vous voyez qu'il y a un savoir dogmatique, systématique, qui se met en place, hein, et qui commence à devenir vraiment de type conceptuel, de type systématique. Ce n'était pas du tout le cas du temps de la patristique. Les pères de l'Église se lançaient dans des grands sermons, dans des grandes homélies, dans des traités, dans des controverses, etc. Et voilà, tout cela faisait l'armature intellectuelle, si on veut, de la foi, mais elle n'était pas systématisée comme elle le devient progressivement au XIIe siècle et par excellence, justement, avec saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Innocent III, 174e pape, est un pape très fort, très autoritaire, très intelligent, très organisateur, etc. Et c'est lui qui présidera le concile de Latran IV. Sous son pontificat, nous avons de plus en plus l'affirmation de l'indépendance et de la suprématie du Saint-Siège sur les souverains temporels. C'est lui qui lance la quatrième croisade. Quatrième croisade, vous vous souvenez que donc, puisque les musulmans occupaient les lieux saints, les chrétiens voulaient récupérer ce territoire. Il y avait déjà eu plusieurs croisades. Et la quatrième croisade, lancée par Innocent III, eh bien, elle partira et elle arrivera à Constantinople. Et là, au lieu de continuer vers Jérusalem, ben, les croisés vont piller Constantinople, s'en emparer, hein, et créer l'Empire latin d'Orient. Donc, pendant les années que je indique là-bas, de 1204 à 1261, ce sont des empereurs qui viennent d'ici, hein, du Hainaut, etc., qui deviendront les empereurs de cet empire latin d'Orient. Bon, vous devinez que les orientaux ne sont pas très contents, évidemment, hein, d'être mis à sac, alors que, normalement, le but était d'aller délivrer Jérusalem des musulmans. Mais la croisade s'est arrêtée là-bas, on n'a pas été plus loin, on était bien à Constantinople, on a même installé un royaume latin, un empire latin là-bas. Les croisades contre les cathares. Les cathares, justement, ce sont des personnes qui pensent de manière très manichéenne le bien et le mal. Alors, ce sont des théories qui viennent parfois de l'Orient, de Mani, des Bogomiles, etc. Enfin, il y a toute une généalogie de cette théologie, si on veut. Mais c'est une théologie dualiste, où il y a au fond deux dieux. Hein. Je vous en ai déjà parlé. Saint Augustin lui-même a été manichéen pendant 9 ans, semble-t-il. Hein. Et donc, il y a une lutte entre le bien et le mal. Parce que ce sont deux principes. Alors retenez ça, parce que saint Thomas d'Aquin dit totalement le contraire. Hein. Ce sont deux principes d'égale puissance ou dignité ou consistance ontologique ou je ne sais pas quoi, hein, qui luttent l'un contre l'autre. Et l'être humain, eh bien, est un des protagonistes, bien malgré lui, de ce combat des deux principes. Saint Thomas dira tout à fait autre chose. Hein. Alors voilà, les cathares s'installent un peu dans le sud de la France, et on lance une croisade aussi contre les cathares qui dégénèrent également, hein, parce qu'on leur envoie le légat du pape, et alors eux, ils tuent le légat du pape, alors évidemment, on veut se venger, et puis alors il y a des arrestations, etc. Enfin, c'est une histoire compliquée, mais c'est là qu'on voit les premiers bûchers, en 1210. Sous Innocent III, c'est également les débuts de l'Inquisition. Il y a des décrets dans la 34 qui parlent des recherches qu'il faut faire, hein, mais ce n'est pas encore vraiment le type d'inquisition qu'on connaîtra plus tard. Elle sera officialisée en 1232 par une bulle dont le nom est là, Ille Humani Generis. Vous voyez donc que c'est une période assez compliquée, mais aussi où l'autorité de l'Église s'affirme, hein, et s'affirme de manière, je dirais, théologique, mais aussi temporelle. C'est l'époque où de la Christianitas, presque tout le monde était chrétien, et être chrétien c'était évident, et lorsqu'il y en avait quelques-uns qui ne l'étaient pas, eh bien, s'ils dérangeaient vraiment l'ordre, hein, social, civil, cosmique, et pas seulement ecclésial. Innocent III a présidé le concile de Latran IV, qui est un concile très important, comme je vous ai dit. Pourquoi? Eh bien, parce que ce concile s'oppose complètement à tout ce qui est manichéen. Il dit qu'il n'y a que Dieu qui existe, que Dieu est bon, qu'il a créé une création qui est bonne, que toutes ses créatures sont bonnes, hein, et que s'il y a du mal, eh bien, c'est à cause de la liberté de ses créatures. Ce n'est pas Dieu qui a mis la moindre initiative de mal, la moindre semence de mal dans la création. Donc, affirmation massive, très forte, hein, rejet du manichéisme et affirmation de la bonté de Dieu et de la bonté de toutes les créatures. Alors on se pose la question, mais comment se fait-il qu'il y a du mal, d'accord? Mais on peut l'expliquer, mais on doit partir de ce principe. Ça, c'est ce qu'affirme le concile. Ce concile parle aussi de la transubstantiation, entre autres, hein, ce que saint Thomas d'Aquin reprendra. Ce concile se débat aussi avec Joachim de Flore. Je ne parlerai pas de cet abbé, hein, de Calabre, peu importe. Il y a un fameux texte sur l'analogie entre le Créateur et les créatures qui se trouve dans ce concile, un texte qui a fait couler beaucoup d'encre et que beaucoup de philosophes et de théologiens continuent aujourd'hui, parmi les plus grands, hein, à commenter. Est-ce qu'il y a une ressemblance entre Dieu et sa création ? Est-ce qu'il y a une ressemblance? Est-ce qu'il y a ce qu'on peut dire parce que Dieu est comme ça, la créature est comme ça, ou bien parce que la créature est comme ça, donc Dieu est comme ça? Est-ce qu'on peut faire cette analogie? Alors depuis longtemps on parle d'analogie, hein, déjà Aristote en parlait, puisque maintenant on veut un peu faire de la philosophie autour de ça, on étudie l'analogie, les différents types d'analogie, c'était déjà dans la tradition du premier millénaire. Mais il y a cette sentence magnifique, hein, que donne le concile de Latran IV qui dit ceci: quelle que soit l'analogie qu'il y a entre le Créateur et la créature, il faut toujours la comprendre de telle manière que s'il y a une ressemblance entre les deux, il y a une dissemblance encore plus grande que la ressemblance. Donc vous voyez, c'est l'idée d'une transcendance complète de Dieu par rapport à sa créature. Il est le créateur, il a laissé son empreinte dans la création lui ressemble, mais prendre la structure de la création pour la projeter en Dieu et dire maintenant nous connaissons la structure de Dieu, si j'ose dire, eh bien ce n'est pas possible parce que si la ressemblance existe, la dissemblance est encore plus grande. Alors voilà, je ne sais pas comment vous percevez cette phrase, mais c'est un théologoumène, comme on dit, un énoncé théologique extrêmement fort, extrêmement beau, extrêmement puissant, donne à penser, qui donne à prier, qui donne à adorer. Parce que donc, vous regardez la créature autour de vous, la création, vous dites qu'elle est admirable. Dieu doit être admirable donc à cause de cette création que je vois. Mais la beauté de Dieu est encore infiniment plus grande, parce que la différence qu'il y a entre la beauté de la création et la beauté de Dieu est plus grande que la ressemblance qui existe. Voilà, c'est une formule donc métaphysique et théologique extrêmement importante. On voit donc que c'est une époque où, en fait, bon, de différentes manières, on met les choses en place théologiquement, philosophiquement, administrativement aussi, politiquement, et saint Thomas d'Aquin arrive un peu à ce moment idéal, dirais-je, où l'Église catholique en Italie, saint Thomas est un Italien, est vraiment un peu au sommet de sa gloire et au sommet de ses puissances intellectuelles et de ses puissances rationnelles d'organisation de la pensée théologique. Et donc saint Thomas a écrit toute sa vie, il a écrit énormément. Sa vie se résume très facilement, 3 fois 17 ans. 17 ans jusqu'à l'âge d'entrée chez les dominicains, 17 ans d'études, 17 ans d'enseignement, et puis il est mort. Il est mort, et il est mort précisément en 1274, alors qu'il se rendait au concile de Lyon, dont je vous parle ici, où il y a eu une nouvelle tentation de rapprochement avec l'Orient. C'est en se rendant à ce concile de Lyon, depuis Paris, je crois, à Lyon, dans ce voyage, il est décédé. 17 ans, ça ne l'a pas empêché d'écrire donc des milliers de pages. Et la somme théologique que je vous indique au verso, là, se compose de 3 parties, dont la deuxième est divisée en 2. C'est pour ça que nous avons donc prima pars, segunda pars avec un 2 et tertia pars. Grosso modo, la prima pars c'est Deo, on parle de Dieu, et du Dieu créateur et donc aussi de la création. La seconde partie, c'est comment la créature rationnelle, ça veut dire l'homme, eh bien, est habité d'un mouvement qui le fait retourner à Dieu, il vient de Dieu et il retourne à Dieu. C'est le mouvement de exitus reductus, comme on dit, toute chose vient de Dieu et y retourne. Prima pars, Dieu est créateur. Segunda pars, eh bien, les créatures rationnelles, ça veut dire l'homme, retourne à Dieu. De quelle manière? Eh bien, en faisant le bien. Et comment fait-on le bien? Eh bien, par une série d'actes, etc. Voilà, ça c'est le contenu de la segunda pars. Mais ce retour ne se fait pas sans difficulté, et c'est pourquoi le Christ, tertia pars, est le médiateur entre Dieu et les hommes pour nous permettre d'achever ce retour. Voilà, donc ça c'est le schéma général. Je vous ai dit qu'il y avait autant de questions que celles qui sont indiquées ici. Chaque question est divisée en articles. Donc, vous avez déjà un beau paquet de questions, mais parfois il y a 2 articles, ou bien 8 articles dans une question, et puis c'est très 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 divisé, très rationnellement distingué. Saint Thomas d'Aquin, quand on lui pose une question embarrassante, il dit
«
Distinguo, je distingue ». C'est blanc ou c'est noir? Je distingue. Qu'entendez-vous par noir? Qu'entendez-vous par blanc? Voilà. Donc c'est toujours comme ça. Donc puisqu'il distingue, ben, il distingue, et il finit par arriver un moment où ben, l'adversaire est calé, quoi, hein, il ne parvient plus à objecter, et voilà. Alors il passe à la question suivante. Vous voyez que j'ai souligné dans ce plan ce qui concernait justement le mal. Ce qui concernait le mal, ce qui concernait le péché originel, ce qui concernait le péché, ce qui concernait la cause du péché, ce qui concernait notre salut. Alors voilà, on commence. Hein. La prima pars, on parle de l'essence divine. Dieu est un, mais il y a trois personnes. Dieu est créateur. Comment se fait la création? La production des créatures, la distinction des créatures entre elles. Et là vient la question du mal. Le mal est la cause du mal. Mais à un niveau purement métaphysique. Hein, un niveau purement métaphysique. Alors je reviendrai. Il y a les créatures spirituelles. Les créatures spirituelles, ce sont les anges. Les créatures rationnelles, ce sont les hommes. Les créatures corporelles, ce sont eh bien, les animaux et les plantes, etc. Donc quand il parle de créatures spirituelles, c'est les anges. Les anges, la malice et la peine des démons, j'y reviendrai. La créature purement corporelle, la pierre, etc. Puis la créature composée à la fois de raison, d'esprit et de corps, c'est l'homme. La nature de l'homme, la production du premier homme, la production du corps, de l'âme, la production de l'homme, de la femme, à l'image de Dieu, et puis l'état et la condition du premier homme et sa vie au paradis terrestre, et le gouvernement divin. Alors, dans toute cette prima pars, l'homme est bon de A à Z. Tout est bon pour l'homme. Il n'y a rien de mauvais, on ne parle jamais du mal chez l'homme, on ne parle jamais du péché de l'homme, on ne parle jamais d'Adam, on ne parle jamais d'Adam pécheur. Tout ça, Adam est bon, tous les hommes sont bons, enfin, si, dans la mesure où ils sont présentés, ils sont comme au paradis terrestre. Donc vous voyez que, rien qu'à voir cela, on se rend compte que Thomas ne focalise pas sur la question du péché, hein, puisqu'il est capable d'écrire déjà tout un traité de 119 questions où tout est bon pour l'homme. Ça baigne, hein. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de rédemption, tout va bien. On verra que dans la deuxième partie, la question du retour de l'homme à Dieu, comment l'homme revient à Dieu, il revient à Dieu parce qu'il décide de le faire, il se met en mouvement vers Dieu, hein, le mouvement de la créature rationnelle vers Dieu. La créature rationnelle, ce n'est pas l'ange, c'est la créature spirituelle, l'ange. La créature rationnelle, c'est l'homme. Comment fait-il pour aller vers Dieu? Eh bien, il fait des actes bons. Eh bien, il fait des actes bons, tout le temps, ils sont tous bons, jusqu'à la question 70. De nouveau, la description des actes bons de l'homme. Donc vraiment, hein, rien qu'à voir le plan, on voit qu'il n'est pas du tout obsédé par la question du péché. Hein. C'est pas ça qu'il met en premier. Et puis viennent, bien sûr, les actes mauvais, pourquoi ils sont mauvais, d'où ça vient, etc. Alors, il s'interroge sur le péché originel, à la question 81-83. Bien, je reviens à la prima pars. Le mal et la cause du mal. Je vous ai mis 5 petites notes en bas qui sont des définitions assez précises de ce que saint Thomas entend par ceci ou cela. D'abord, le mal, puisque Dieu est bon, puisque la création est bonne, puisque Dieu ne peut rien faire de mal, puisque tout ce qu'il fait est bon. Alors, d'où vient le mal? Qu'est-ce que le mal? Eh bien, la définition la plus précise du mal, c'est celle qui est dans la note 1. Le mal, c'est la privatio perfectionis debite. Ça veut dire la privation de la perfection due, de la perfection à laquelle on s'attend, de la perfection qui devrait être là. Donc, vous comprenez bien les mots latins. Le mal, ce n'est pas une action, c'est une privation. Ce n'est pas quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui manque. C'est quelque chose qui manque, c'est quelque chose qui n'est pas là. Hein? Le mal, c'est quoi? Vous ne pouvez pas le voir. Vous le voyez dans la mesure où vous devriez voir le bien, et bien, il n'est pas là. Donc c'est une privation de bien. Et c'est même, je dirais encore... plus précis, ce n'est pas seulement une privation de bien, c'est une privation du bien parfait. C'est la privation de la perfection. de la perfection débitée, donc qui devrait être là. Donc pour saint Thomas, d'une certaine manière, je vais un peu schématiser, mais on va d'abord essayer de saisir l'intuition, il n'y a que le bien. Il n'y a que le bien. Alors il y a le bien parfait, et puis il y a le bien un peu moins parfait, et puis un peu moins parfait, etc. Mais tant qu'il y a de l'être, il y a du bien. Parce que dès qu'il y a de l'être, l'être c'est déjà du bien. C'est déjà du bien. Donc si je suis un saint, bon ben voilà, c'est le bien, la perfection débitée, d'accord. Ben si je ne suis pas si saint que ça, ben je descends un peu dans l'échelle, mais c'est quand même bien, quoi. Mais cette fois-ci, c'est mal aussi parce qu'il manque du bien. Il manque du bien à la perfection, donc il y a du mal. Mais ce mal-là, ce n'est pas quelque chose que j'ai ajouté, c'est quelque chose que j'ai retiré. C'est du bien que j'ai retiré. Le mal est toujours un bien qui manque. Et il arrive toujours par accident. Par accident, ça veut dire, c'est pas par hasard, non, ça peut être volontaire, mais ce n'est pas l'état premier. Le mal vient toujours en seconde sur quelque chose qui était déjà là. Donc, par exemple, disons, c'est chaque fois quelque chose qui pourrait ne pas être là. Qui normalement ne devrait pas être là. Ce n'est jamais quelque chose qui est nécessairement là. Quelque chose qui devait être là. Parce qu'on veut qu'il soit là. Non, on ne veut pas qu'il soit là, mais
il y est quand même.
Mais il y est quand même parce qu'il n'y est pas. Parce que le bien n'y est pas. Hein? Voilà. Donc, je dirais, vous êtes riche. Hein? Et alors, vous perdez progressivement votre richesse. Et au fur et à mesure que votre richesse se perd, ben, c'est mal. Mais vous gardez toujours un petit capital, quoi. Hein? Et le capital, le minimum que vous ayez, c'est d'être. D'être. Même si vous êtes plus saint du tout, mais vous êtes un pécheur, le fait que vous soyez, eh ben, c'est quand même déjà un bien. Vous êtes. Donc le mal est toujours une privation à partir d'une perfection qui devrait être là. Et cette privation n'arrive jamais que par accident. Hein? C'est-à-dire qu'on a fait un geste malheureux, on a pris une décision qu'il ne fallait pas, on a voulu quelque chose, on a voulu faire ceci, finalement on a fait ça, hein, mais c'est pratiquement impossible de vouloir le mal pour lui-même. Quand vous faites le mal, c'est que vous voulez un bien et vous vous trompez de bien. Vous ne prenez pas le bien supérieur. Hein. Vous prenez un bien inférieur. Vous dites par exemple, ben, je dois étudier, bon, ben, alors je suis fatigué, donc au lieu d'étudier, je vais d'abord un peu me reposer. Ah, attention, ça c'est une mauvaise décision. Hein, parce que vous avez le droit de vous reposer, mais attention, parce que si vous n'étudiez pas, alors ben, la note d'examen va s'en ressentir. Ah oui, mais j'ai besoin de me reposer. À vous de choisir, hein, à vous de choisir. Mais c'est par accident ou par faiblesse ou par je ne sais pas quoi, mais vous ne choisissez pas de ne pas étudier. C'est pas possible de dire je veux rater mon examen, j'ai envie de ne pas étudier, hein, et je ne fais rien. Non, vous essayez un petit peu, vous essayez mal, et puis bon, ben finalement, c'est qu'à moitié bien, ben voilà. C'est ce qui s'est passé. Hein. Mais c'est impossible, si on est un étudiant normal inscrit dans une faculté, de s'inscrire pour rater. C'est pas possible. Hein. On est là pour réussir. Alors bon, ben, c'est par accident qu'on va ne pas réussir aussi bien qu'on voulait. Hein. Mais normalement, tout le monde est là pour bien réussir. Voilà, alors cette idée, ça peut vous sembler soit simpliste, hein, soit impossible à tenir dans la réalité, mais essayez quand même de vous interroger sur les cas que vous avez envie de réfléchir. Eh bien, même ceux qui font le mal le font toujours pour obtenir un certain bien. Celui qui fait un hold-up, ben, même si tu es des personnes et tout, en principe, c'est pour avoir de l'argent pour lui, quoi. Donc, il cherche un bien. C'est impossible de chercher le mal ou de sick. C'est impossible. Hein? Alors, après cela, il étudie... Oui, oui, je sais bien que c'est compliqué comme situation. Hein? Et alors, quand vous allez me dire, oui, mais le goulag, etc., oui, mais Hitler et tout, bon, ben... Ouais, ben, ils essayent quand même, eux, de, de chercher un bien à leur manière à eux.
Hein. Oui, lui, il voyait la perfection.
Lui, il voit tout de suite hein, que le bien, c'est la perfection du bien. Hein. Et que dès qu'on est déjà en dégradé, eh bien, on s'oriente vers le mal. Voilà, donc c'est une vision très optimiste, très positive, hein, très à partir de ce qui est. Hein. Mais je crois que très souvent, sans partir aux extrêmes, hein, quand on vous dit « est-ce que vous allez bien aujourd'hui ?»« Non, non, je ne vais pas bien aujourd'hui. Pourquoi ?»« Parce que j'ai mal ici. Bon. » Mais tout le reste du corps marche bien. Hein. Il y a 90% des trucs qui marchent bien, ou même 95%, mais il y a ce petit truc qui ne marche pas et ça met votre journée en l'air. Hein. Bon, mais ça, je dirais, voilà, ça c'est l'idée de saint Thomas. Pourquoi est-ce que vous ne regardez pas les 95% qui marchent hein? Tout le monde voit toujours ce qui ne marche pas. Et pourquoi est-ce qu'on voit ce qui ne marche pas? Ben parce que ça devrait marcher, quoi. C'est la perfection débitée. Hein? C'est la perfection qu'il devrait avoir. Pourquoi est-ce que vous vous sentez malade? Parce que vous êtes en bonne santé d'habitude. Hein? Et que c'est la bonne santé qui prime, et que c'est ça que vous recherchez, et que c'est ça que vous avez habituellement. Hein? Si nous naissions tous malades, je ne sais pas si on chercherait à être en bonne santé, mais on serait habitué, quoi. Hein. C'est parce qu'on est habitué à être quand même dans le bien qu'on remarque tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne marche pas. Alors, je continue. La malice et la peine des démons. Ah oui, mais il y a quand même des démons, hein, il y a quand même des anges qui ont, semble-t-il, failli. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il fait une réflexion sur l'ange. Qui est celle-ci. L'ange a été créé comme nous, dans le bien, mais il n'était pas immédiatement dans la rencontre avec Dieu, dans la vision béatifique, dans la communion. Il était libre. L'ange était libre. Il n'a pas été créé tout de suite, accompli. Il devait lui aussi faire un geste de liberté. Aucun ange, c'est la note numéro 2, hein, aucun des anges n'aurait pu faillir s'il avait été déjà dans la vision béatifique. Donc l'ange, quand il a été créé, n'avait pas atteint son but. Il devait dire oui ou non à cette création de Dieu. Alors ce qu'il y a, c'est que, bon, ça c'est la manière dont saint Thomas et cette époque-là imaginent les anges, hein. Il y a l'acte premier, donc le fait d'être. Dieu donne l'acte premier, le fait d'être, vous êtes, ça c'est l'acte premier. Et à partir de cet acte premier, c'est vous qui développez par des actes seconds, hein, par des actes seconds libres, vous développez cet acte premier. Alors nous avons un acte premier, nous naissons, bon d'accord, je suis là, et puis des actes seconds, ben, j'en ai des milliers, des milliers, des milliers, tous les jours j'en fais, hein, jusqu'à ce que, en ce moment, on va conclure si les actes seconds ont atteint leur but par rapport à l'acte premier. Mais l'ange n'a qu'un seul acte second. Et il est immédiat. Le fait d'être créé, de surgir dans l'être, le met immédiatement devant un oui ou non. Je suis créé, je suis ce que je suis une créature de Dieu, oui ou non. Vous êtes d'accord ou pas? Ben nous, on a 10 ans, 50 ans, 80 années pour décider cela. Si on est d'accord avec le fait d'être créé et d'être adhéré au projet de Dieu dans ce monde. Eh bien, l'ange, il a un seul acte. C'est oui ou non, immédiat. Il y a une espèce de coïncidence entre cet acte premier et cet acte second unique qu'il doit faire. Mais c'est cet acte second unique qu'il fait qui décide s'il va ou non adhérer au plan de Dieu et entrer ou non dans la vision béatifique. Lui aussi doit faire un choix. Lui aussi doit être composé, il n'est pas immédiat comme Dieu, il est composé, il y a l'acte premier et l'acte second, il doit décider, accepter, entrer. Alors c'est quoi cet acte second? C'est de dire, ah tiens, je suis une créature, je suis d'accord ou pas? Ah non, je ne veux pas être une créature, je veux être Dieu, je veux être comme mon créateur. Ben ça c'est ce qu'il ne fallait pas dire, quoi. Hein. Si vous l'avez dit, eh ben, trop tard, si vous êtes un ange, il n'y a plus de seconde chance. Alors, heureusement, nous avons tout le temps des secondes chances, des troisièmes, etc. Hein? Ça, c'est notre condition. Mais l'ange n'a qu'une possibilité de parler, de dire oui ou non. Ça, c'est la manière dont on imagine l'angélologie. Je ne vous demande pas de croire aux anges, mais je vous demande de percevoir cette intuition, hein, d'une liberté qui fait un seul acte pour adhérer ou non hein, à ce qu'elle est. Et ça, c'est très important. Alors, dans la description de Adam au paradis, état et condition du premier homme, et paradis, note 3, Adam est le pater et instructor humani generis. Alors ça, c'est aussi l'intuition de saint Thomas que je trouve extrêmement forte. Hein. Voilà, moi je suis ici, hein, je me définis comme quoi ? Ben, comme un individu, Bernard Potier, une personne, etc. Bon. Ce que je pense, c'est, je pense à moi, à ce que je suis. Vous aussi peut-être. Eh bien, Adam a été créé, lui, avec la conscience qu'il était le Père. Le Père. Quand il s'est trouvé pour la première fois, je dirais, dans le paradis, il a senti qu'il était tout seul, non pas parce qu'il serait toujours tout seul, mais parce qu'il devait donner la vie à l'humanité. Il a été créé pater. Il a été créé Père. Alors bon, ben, nous aujourd'hui, évidemment, progressivement, on prend d'abord conscience de notre personne, etc. Puis un jour, on dit, ben, tiens, je pourrais me marier, je pourrais être père, etc. Bon, la paternité n'est pas identique, si on veut, à notre identité. La manière dont saint Thomas voit les choses, c'est que Adam a vu tout de suite qu'il était appelé à donner la vie, à transmettre le don qu'il avait reçu, à être le père et instructeur, l'éducateur de l'humanité. Hein? Donc il n'a pas péché, je dirais un petit péché pour lui, hein, voilà, et puis après dire, ah oui, maintenant je dois avoir une descendance, qu'est-ce que je vais faire? Non. Il a tout de suite été investi et conscient de cette mission qu'il avait d'être le premier homme, pas par hasard comme ça, mais parce qu'il était chargé d'être le père de l'humanité. Donc c'est toujours cette idée aussi très thomasienne, hein, de la bonté de l'origine, hein, de la bonté de la création, de la bonté de la paternité, de la bonté de transmettre la vie. Donc Adam a tout de suite perçu, selon lui, hein, qu'il était chargé de cette mission de donner, de transmettre ce qu'il avait reçu. Il était le pater et instructor de l'humanité. Et en même temps, il était dans la grâce, ça veut dire que Dieu lui avait donné cette possibilité d'être parfaitement dans l'équilibre de ses facultés, dans la liberté de choisir, de prendre cette mission. Mais cette harmonie dans laquelle il était, alors je vous signale que vous voyez, il y a depuis les questions 94 à 102, hein, état et conditions du premier homme et du paradis, questions 94 à 102, ça fait bien 100 pages, hein, dans lesquelles saint Thomas explique comment Adam s'est reçu de Dieu dans cet équilibre, dans cette perfection, dans cette amitié avec Dieu, dans cette facilité de communication avec lui, avec Dieu, avec sa femme, avec le monde, etc. Et avec la conscience de cette mission. Et que c'était un don précieux. Mais que ce don précieux qu'il avait reçu, il devait le donner dans cette fragilité qu'il avait de dépendre entièrement de Dieu. Cet équilibre qu'il avait était un équilibre qu'il devait uniquement à Dieu. Une paix intérieure, une harmonie, un équilibre de ses facultés qui était le fruit de la grâce. Et donc, saint Thomas décrit que s'il n'y avait pas eu le péché, ben Adam et Ève auraient eu des enfants comme nous aujourd'hui, qu'ils auraient éduqué leurs enfants, qu'ils auraient dû faire une vie politique, une vie sociale, tout ce qu'on veut. Et tout ça dans cet équilibre, hein, extrêmement délicat de l'amour parfait de Dieu et des autres, etc., donné par grâce. Et donc ce don est d'autant plus merveilleux qu'on le sent plus fragile parce que Adam est, et voilà, mais ce n'est pas il n'est pas son propre créateur. Hein. Tout ce qu'il reçoit, il le reçoit de Dieu. Et il doit continuellement être dans cette conscience de recevoir de Dieu et de devoir donner aux autres. Et donc c'est un équilibre extrêmement fragile dans lequel il se trouve. Parfois, quand nous sommes dans un moment de grand bonheur, nous sentons aussi que c'est un don extrêmement fragile, hein, extrêmement gratuit, hein, dont nous nous réjouissons peut-être, mais nous savons que ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donné ce bonheur, hein, si nous ne remercions pas pour ce bonheur, si nous croyons pouvoir le prendre, ben, nous aurons peut-être conscience aussi que nous allons l'abîmer, qu'on ne domine pas ces moments de bonheur. Eh bien voilà, c'est dans cette conscience d'être le père et l'éducateur de l'humanité qu'Adam a été appelé donc à vivre. Mais cette harmonie il n'est pas parvenu à la garder. Et donc il y a eu un premier péché, alors lequel il en parlera mais bien plus loin. Il n'en parle pas ici, hein, il en parle plus loin, ce que serait ce péché. Mais il montre dans toute cette description d'Adam au paradis terrestre la beauté et la fragilité, la vulnérabilité de ce bonheur. Je trouve que c'est une intuition assez intéressante. Hein. Alors, avançons un peu. Oui, je réinsiste sur la question de la paternité. Adam avait une personnalité. Alors moi, je ne sais pas comment vous imaginez Adam, mais il est le premier, il est le prototype, donc c'est un portrait robot, quoi. Hein. Il est comme ça, il est comme tout le monde, il n'a rien de particulier. Non, Adam a une personnalité. Si on vous dit un homme en Chine, ben vous dites oui, un homme en Chine, d'accord. Mais si on vous dit Mozart, ben Mozart a une personnalité, quoi. Hein. Un homme en Chine, ben, sans doute, mais j'en sais rien. Hein, Adam a une personnalité, sans doute, mais j'en sais rien, moi. Hein. Eh bien non, Adam a une personnalité. C'est une personne. C'est quelqu'un qui, pour lui-même et pour Dieu, est aussi personnel que Mozart, ou que Jean-Paul II, ou que voilà, votre épouse, ou votre époux, c'est quelqu'un. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau aussi à ne pas faire de cet Adam, hein, un espèce de prototype numéro 1, robot de je ne sais pas quoi. Hein. C'est vraiment une personne, comme nous, exactement comme nous, avec les mêmes possibilités de percevoir, hein, le bonheur et la fragilité du bonheur qu'il a. Et le fait qu'il ait conscience d'être père, de devoir donner ce qu'il a reçu, eh bien, le met dans une solidarité avec sa descendance. Dans une solidarité, il sait que ce qu'il va faire, que tout ce qu'il va faire, est important pour sa descendance. C'est pas par hasard qu'il a fait quelque chose, puis qu'il a dit, ah bon, ben maintenant, peut-être que ça va retomber sur mes fils. Non, non, c'est pas ça. Il sait que tout ce qu'il fait, c'est en fonction de cette transmission. Donc, ce n'est pas une conséquence inobservée, inattendue. Il sait bien que tout ce qu'il fait, c'est en fonction de recevoir de Dieu et donner à sa descendance. Je trouve que là, il y a aussi une intuition importante. Hein, parce qu'on a l'air de dire, bon ben, ce pauvre Adam, lui, il était là, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et puis les enfants, maintenant, c'est eux qui payent. Hein, et Adam lui-même ne savait pas que ça allait se dérouler comme ça. Eh bien non, pour Thomas, Adam savait que tout ce qu'il faisait, hein, était en fonction de sa descendance. Il était conscient qu'il était ce premier homme et qu'il allait donner. Alors vous allez me dire que c'est un peu fantasmagorique parce qu'aujourd'hui vous ne croyez pas Adam, premier homme et tout. Ça c'est bien possible. Hein. Mais vous êtes sans doute tous parents ou enfants en tout cas, hein, parents, frères et sœurs. Est-ce que vous sentez cette solidarité avec les autres? Est-ce que vous sentez que tout ce que vous faites n'est pas seulement votre affaire à vous, hein, mais l'affaire de tous ceux qui vous entourent, et particulièrement de ceux qui sont liés par le sang. Hein. Et donc cette solidarité très belle qui est décrite dans la Prima Pax explique la transmission du péché originel. C'est à partir de ça qui est bon, cette solidarité qui est bonne, que cette transmission du péché originel, on va dire qu'elle est mauvaise, mais c'est un manque de bien, c'est un manque de perfection. C'est un mal qui se transmet parce que c'est un bien qui n'a pas été transmis. Voilà, c'est ça l'idée, hein, de Thomas. C'est un bien qui lui avait été donné pour qu'il le transmette, et il le savait, et il voulait le faire, et on ne sait pas pourquoi, eh bien, il ne l'a pas fait. Alors, nous prenons la seconda pars maintenant. Donc, je vous ai dit dans toute la prima pars, ça fait déjà deux gros volumes que vous avez lus en latin. Hein. On n'a toujours rien dit de l'homme mauvais. Hein. Rien. Pas de péché, rien du tout. On entre dans les deux volumes suivants. Hein. Eh bien, il faut encore marcher jusqu'à la question quoi, 71, pour entrer dans les actes mauvais de l'homme. Parce que comment est-ce que l'homme revient à Dieu ? Par des actes bons, des actes bons, des actes bons. Ah, parfois ils ne sont pas si bons que ça. Bon, donc ils sont mauvais, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez bons. Et alors il étudie les actes mauvais, la cause des péchés, les causes intérieures du péché. Alors quelles sont les causes du péché pour saint Thomas d'Aquin ? Note 4. Alors, la plupart du temps, quand on dit quelles sont les causes du péché, on dit ben, c'est parce qu'on est mauvais, parce qu'on veut le mal, tout ça. Première cause du péché pour saint Thomas d'Aquin, l'ignorance. L'ignorance.
Ah bon.
Eh bien, c'est aussi une manière très, très intéressante d'aborder la chose. Déculpabilisante, si j'ose dire. Hein. Ah ben, j'ai fait le mal, mais c'est parce que je ne savais pas. Eh bien, oui, c'est vrai. La plupart du temps, nous faisons le mal parce que nous ne savons pas. Parce que nous n'avons pas été assez instruits par notre pater et instructor. Hein. Nos parents et toute la société ne nous a pas assez enseigné comment on fait le bien. La première cause du mal que nous faisons, des péchés que nous faisons, c'est l'ignorance. Alors vous voyez que c'est un peu aussi une attitude un peu rationalisante. Hein. Un peu rationalisante, oui. Donc il faut être intelligent pour ne pas faire le péché.
Ben, oui, peut-être. Peut-être.
Mais peut-être que l'intelligence porte à en faire d'autres. Hein. Mais en tout cas, il faut mieux être intelligent. Quoi, hein. Parce que moins on est ignorant, eh bien plus on peut éviter, on peut choisir de ne pas pécher, de faire le bien. En second lieu, la passion. Et la passion, c'est quoi ? C'est la désordonnance des motivations. C'est le désordre des motifs. Alors les motifs sont tous bons à leur niveau, hein, à leur niveau. Mais si, comme je le disais, je dois étudier, ça c'est une très bonne motivation, mais j'ai envie de me reposer, ça c'est une moins bonne, et j'ai envie d'aller boire une bière, ça c'est encore une moins bonne. Hein. Mais si je mets ces motivations dans le désordre, je dis bon, d'abord la bière, hein, et puis le repos, et puis l'étude. Mais tout ça c'est une très bonne chose, hein, mais c'est peut-être mieux dans le bon ordre. Hein. D'abord étudier, et puis se reposer et boire une bière. Hein. Mais si on fait dans le désordre, ben voilà. La seconde cause du péché, selon lui, c'est le désordre des motivations. C'est les passions. On ne fait pas les choses dans le bon ordre. On n'a pas ce courage, hein, de mettre au sommet les motivations principales. Et bien sûr, de sacrifier parfois, en tout cas momentanément, de différer d'autres motivations plus agréables, mais qui sont de moindre importance. Mais cela dit, la bière est toujours bonne, hein, elle n'est jamais mauvaise. Hein. Même si ce n'est pas du tout bien de boire la bière à ce moment-là, elle est bonne, la bière. Hein. Ah ben j'ai choisi un bien, mais un moindre bien. Voilà. Et ce n'est pas un mal, mais j'aurais dû choisir, disons, un bien supérieur et subordonner ce bien particulier à un bien supérieur. Et enfin, la troisième motivation du péché, ben c'est la malice de la volonté. C'est ce que souvent nous mettons, spontanément, que nous mettrions peut-être en premier, en disant, ben il fait ça parce qu'il est mauvais, hein. Il me veut du mal. Non, il ne me veut pas du mal, mais il veut son bien à lui d'abord, quoi. Ouais. Alors il a un peu oublié que moi, ça me fait du mal, mais il veut son bien à lui. Ben oui, il est égoïste, il pense à son bien à lui, ben voilà. Et donc il me fait du mal, mais il ne me veut pas du mal. Mais il oublie que ça peut me faire du mal. Donc l'ignorance, la passion et la malice de la volonté. Alors ça, ce sont les causes intérieures du péché. On a toujours pas parlé du péché originel ici. Hein.
Non.
On a bien parlé de tous les péchés, de tout le bien que nous pouvons faire, que vous pouvez faire, que tous les hommes et femmes peuvent faire. On en a parlé longuement. Puis on est entré dans les péchés, les mauvaises habitudes, tout ça, en se posant la question où sont les causes. Ben, elles sont à l'intérieur de chacun de nous. À l'intérieur de chacun de nous. Et peut-être qu'il y a des causes extérieures. Ah, peut-être que je fais le mal parce qu'il y a une cause extérieure. D'abord, elles sont intérieures. Hein. Il examine d'abord les causes intérieures. Extérieures. Est-ce que Dieu serait la cause ? Pose cette question. Hein. Est-ce que ce serait le diable ? Pose la question, c'est la question 80. Je laisse le diable pour l'instant, mais à la question 81-83, enfin, il dit, nous faisons le mal parce que il y a le péché originel. Ah, Voilà enfin la question du péché originel qui arrive. On est déjà bien loin dans la somme. Et qu'est-ce que c'est le péché originel? Eh bien, regardez à la définition 5 de la note. Il est défini formellement comme la privation de la sainteté originelle, due à une grâce surnaturelle, et matériellement, donc formellement et matériellement, comme la concupiscence ou l'anarchie de désir. Donc finalement, formellement, qu'est-ce que c'est le péché originel? C'est de ne pas être un saint. Si je lis bien, c'est ça. Hein? Donc, le péché originel, c'est la privation de la sainteté originelle. C'est un drame, ça. Ah ben, écoutez, on vous avait donné la sainteté, hein, par grâce surnaturelle, donc c'est pas vous qui la méritiez, mais vous étiez quand même dans cette sainteté, vous y aviez été installé. Et instantanément, vous avez dit non, merci, c'est bon comme ça. Hein. Et donc, vous n'étiez plus saint, vous étiez bêtement normal, si j'ose dire. Hein. Et bien, c'est ça le péché originel. Alors, c'est sans doute un peu plus subtil que ça chez saint Thomas, mais c'est le fond du raisonnement. Hein. C'est le fond du raisonnement. Nous n'avons pas réussi à nous maintenir au degré de sainteté originelle que Dieu nous donnait gratuitement et qui n'était pas le mérite de notre, le résultat de notre mérite. Hein. Donc on vous avait donné un cadeau, ce cadeau vous ne le méritiez pas, vous l'avez reçu, et instantanément, vous vous avez dit, ben oui, ce cadeau, est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce que je dois le garder? Est-ce que je dois tout le temps me braquer sur ce cadeau et en remercier éternellement Dieu? Ben, peut-être que j'ai autre chose à faire, est-ce que je vais pas me regarder le nombril? Alors, à partir de ce moment-là, on a perdu cette sainteté originelle. Vous voyez, c'est le calque de la définition de la privation perfectionniste. Ici, c'est donc la privation de la sanctitatis. Hein. On a perdu la sainteté originelle que Dieu nous avait donnée. Et donc, on est, je ne sais pas s'il faut dire devenu ou redevenu, enfin bon, on est un petit peu là dans des subtilités, mais voilà, on est comme celui qui n'a pas reçu ce cadeau extraordinaire. On est bêtement ce qu'on est, hein, parce qu'on a refusé le cadeau de la grâce surnaturelle, on n'a pas été capable de l'accueillir pleinement, comme il doit être accueilli, ça veut dire en ayant toujours l'œil sur Dieu, en disant c'est lui qui me donne ça, c'est pas moi qui l'ai. Et matériellement, ça se traduit comment? Eh bien, dans l'anarchie de désir, dans le désordre de cet équilibre dans lequel Dieu nous avait mis. Il nous avait mis dans un équilibre, dans un bonheur, fragile, mais extrêmement subtil aussi, extrêmement beau, hein, que nous savions tout à fait immérité, tout à fait, disons, dépendant de Dieu, hein, et pas de nous. Eh bien, voilà, nous n'avons pas réussi à nous maintenir dans cet état d'accueil de ce don extraordinaire. Voilà, ben écoutez, je crois qu'avec ça, on voit bien qu'on est loin de la Massa Damnata de saint Augustin. Hein? On est assez loin de ça.
Oui.
Alors c'est quand même, il insiste, hein, c'est, on n'est plus dans la perfection, on n'est plus dans la sainteté. Et vraiment, c'est pas glorieux. Hein? Nous avons maintenant à revenir vers Dieu, grâce au Christ. Mais en même temps, il n'y a pas toute cette dramatique, hein, qu'il y avait chez Augustin ou chez d'autres pour définir le péché. Alors un peu plus bas, il parle du péché du premier homme. Alors quel était finalement ce péché d'Adam? Parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il était. Hein. Qu'est-ce que c'était ce péché d'Adam?
C'est pas manger la pomme.
Eh bien, écoutez, donc il nous explique que, vous voyez les vertus là, vous voyez les vertus. Vous allez voir comment il va arriver à ce péché. Hein. Vous allez voir. Donc, les vertus. Il vante la foi, l'espérance, la charité. Il vante la prudence, la justice, la force, la tempérance, en expliquant que tous nous pouvons avoir cela. Hein. Et puis, il dit, faites attention, parce qu'il faut être tempérant. Hein. Alors, la tempérance, c'est quoi? C'est la continence, c'est la clémence, c'est la modestie. Hein. Soyez bien modeste. Et tiens, à propos de la modestie, hein, il y a l'humilité, hein, et il y a l'orgueil. bien vous savez quoi, Adam, ben, il a manqué de modestie, quoi. Il a fait un péché d'orgueil, de superbier. Mais il dit ça à l'occasion de, à l'occasion de la description de toutes les vertus que nous pourrions avoir, que nous avons, qu'il avait, etc. Adam, presque vers la fin, on vous signale, comme par parenthèse, qu'il y a eu un péché d'orgueil. Mais cet orgueil, de nouveau, n'est pas un orgueil satanique, c'est un manque de tempérance. C'est un manque de modestie. Alors vous allez me dire, ben, dans ce cas-là, c'est pas si grave que ça. Mais si on a compris la beauté de cette justice originelle, de cette sainteté originelle, eh bien, cette petite ingratitude est vraiment perçue comme quelque chose de réel, de réel et d'important. Alors le Christ, lui, eh bien, il est venu pour nous sauver et pour nous aider à faire ce exitus reditus, ce retour à Dieu en surmontant donc ce péché dans lequel nous nous entraînons les uns les autres. Il est venu pour notre salut. Alors là, il y a une question de savoir si le Christ est venu uniquement pour notre salut ou s'il est venu pour autre chose. S'il est venu, par exemple, pour nous révéler son Père, avec la question de savoir s'il n'y avait pas eu péché, est-ce que le Christ se serait incarné, Est-ce que le Christ est venu uniquement pour nous sauver? Alors là, il y a un peu deux écoles, deux directions. Les uns disant non, même s'il n'y a pas eu de péché, le Christ se serait incarné pour nous révéler le Père et la beauté de la divinité autant que de l'humanité. Et d'autres disent non, il est venu surtout, principalement ou uniquement pour nous sauver. Alors saint Thomas dit, écoutez, Jésus ça veut dire Dieu sauve, donc on va quand même dire qu'il est venu pour sauver. Jésus ça veut dire Dieu sauve, donc admettons cela. Et alors il insiste donc, mais il prend cette position principalement, qu'il est venu pour nous sauver. Mais dans le credo, nous avons, vous vous souvenez, qu'il est venu pour les hommes et pour notre salut. Il est venu pour les hommes et pour notre salut. Donc le salut est quand même en second, est venu, il s'est fait homme pour nous et pour notre salut. Pour nous, ça veut dire aussi pour nous tels que nous sommes, indépendamment peut-être de notre péché. Pour nous, tels que nous sommes. Indépendamment du péché. Voilà, on va s'arrêter.